Les cours du Collège de France, Laurent Coulon, chère civilisation de l'Égypte pharaonique.
Bonjour à tous. Alors pour cette troisième séance consacrée à la cour et aux courtisans en Égypte pharaonique, du début du troisième millénaire à la première moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, nous allons terminer les développements sur le fonctionnement de la cour et glisser insensiblement vers le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les interactions entre rois et courtisans dans les sources royales et privées. Alors je voudrais d'abord revenir sur une question qui nous a occupé la semaine dernière, la question ô combien complexe des titres de cour. Alors le tableau hiérarchisé des titres de cour que nous avons vu donc dans le cours précédent, qui avait été établi notamment à partir des travaux de Klaus Baer et de Nigel Strudwick, et raffiné ensuite par Michel Beau, ce tableau ne doit pas nous masquer le fait que beaucoup de zones d'ombre subsistent dans la compréhension de la hiérarchie des courtisans, et surtout que la signification et les modes d'attribution de certains titres nous restent totalement inaccessible. Alors, je vais prendre un exemple qui a fait l'objet d'études récentes. Le titre Ima'a, gracieux de bras, comme cela est parfois traduit, ou celui au bras gracieux dans un français un peu plus élégant. Donc, il apparaît dans la titulature d'un certain nombre de dignitaires à l'Ancien Empire, réapparaissant également au Moyen Empire et puis à la 26e dynastie, donc au milieu du premier millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque saïte, une époque où on remet en vigueur un certain nombre de titres de cour de l'Ancien Empire. Alors Michel Beau, dans son ouvrage « Famille royale et pouvoir », avait bien souligné que malgré les apparences, il s'agissait d'un titre et non d'une épithète. Il disait, on a ainsi pu classer Ima'a, c'est-à-dire peut-être gracieux de bras, c'est une traduction tout à fait conventionnelle, on a pu le classer dans les épithètes vantant la qualité d'un individu, comme il se dirait au doigt habile ou à la démarche assurée dans les biographies. En fait, il faut plutôt le considérer à l'Ancien Empire comme un véritable titre, en fonction de sa rareté et de son contexte d'intervention, même s'il ne recouvre peut-être qu'une fonction temporaire à la cour. Lors d'un rituel, par exemple, les sources ne permettent pas d'en décider. Donc Michel Beau tranche le débat entre titre et épithète, hein, qui revient régulièrement dès qu'on a à analyser des séquences de qualifications d'un dignitaire qui peuvent parfois se rapporter à une distinction conférée officiellement ou plutôt à une épithète du type biographique définissant son caractère et ses qualités. Le titre Ima'a est porté notamment par Aretetep, hein, le propriétaire du fameux mastaba conservé au Louvre, situé sous les règnes de Nusserré et de Djedkare-Isesi, donc à la 5e dynastie. Et dans son édition du monument, Christian Ziegler avait suggéré de le rattacher à la sphère médicale, puisqu'il intervient dans un contexte où on peut rattacher le propriétaire à des activités en lien avec la médecine, avec la protection du roi. Cette suggestion a d'ailleurs été validée par Michel Beau. Alors, en partant d'un nombre d'attestations bien supérieur, un jeune chercheur, Daniel González León, a repris l'examen du titre dans deux articles qui sont parus donc tout récemment dans la Zeitschrift für Ägyptische Sprache en 2021 et 2022. Et il remarque qu'à partir de la fin de la 5e dynastie, ce titre est porté par de très hauts personnages, notamment les vizirs, ce qui l'apparente à une très haute distinction de cour, qui est porté presque exclusivement par des dignitaires menfites. Ainsi, comme vous voyez à l'écran, le célèbre Mereruka, vizir sous le règne de Téti, porte ce titre dans la riche titulature donc, qui orne la façade de son mastaba à Saqqara. Malheureusement, l'analyse de cette séquence de titres de Mereruka ou d'autres n'en dit pas vraiment plus sur la nature exacte de ce titre de cour, même si donc l'analyse conforte l'idée qu'il s'agit d'une haute distinction. Alors tout récemment encore, Miroslav Barta a fait connaître deux tombes nouvellement découvertes à Abouzir, près des pyramides de Nusayre et Neferirkare, donc deux tombes qui appartiennent respectivement à Kairsu, donc, qui a vécu sous le règne de Neferirkare et de Nusayre à la 5e dynastie, et Kairis, donc, qui a vécu très probablement dans la première moitié de la 6e dynastie. Donc, vous avez aussi à l'image une des statues découvertes dans la tombe de Kairsu, hein, ce qui est une découverte assez exceptionnelle, où le personnage porte certains de ses titres. Ces deux personnages, donc Kairsu et Kairis, portent le titre de Imaa, celui au bras gracieux, mais leur statut semble avoir été très différent au vu de la taille respective de leur mastaba, celui de Kairis étant beaucoup plus modeste que celui de Kairsu. Kairsu, lui, était superviseur de tous les travaux du roi et chef aussi d'une institution prestigieuse, la Maison de Vie, en lien, visiblement, à cette époque, avec le dieu Khnoun. Et cette découverte de la tombe de Kairsu a une résonance aussi particulière, puisque c'est peut-être ce personnage qui a servi de modèle à l'auteur d'un enseignement bien connu, la sagesse ou l'enseignement de Kairsu, appelé l'enseignement loyaliste, rédigé au Moyen-Empire. Donc c'est la tradition, on le verra à nouveau un peu plus tard, d'attribuer ces textes sapientiaux à des hauts personnages de l'Antiquité. Et donc ce Kairsu a probablement été vénéré comme un sage, et donc on lui a attribué au Moyen-Empire un de ces textes sapientiaux. Alors évidemment, l'identification, si elle est belle, elle se heurte aussi à un certain nombre de différences entre, par exemple, la titulature de ce Kairsu et celui du texte du Moyen-Empire. Mais en tout cas, son lien avec la maison de vie, avec ce lieu de production de textes, le rattacherait à cette élite érudite qui peut avoir servi de modèle aux auteurs du Moyen-Empire. Si l'on cherche des indices sur la signification du titre Imaa, c'est donc pas forcément dans les titulatures de l'Ancien Empire qu'on va pouvoir les trouver. L'apport de nouveaux documents, on le voit, éclaire en quelque sorte la diffusion du titre, pondère aussi en quelque sorte ce que disait Daniel González León sur le fait que ce titre est attribué à de très hauts personnages, puisque Kairis n'a pas un statut si élevé. C'est peut-être par une liaison familiale qu'il a réussi à obtenir ce titre. Et donc on peut aussi se tourner vers les sources un peu plus tardives, comme celle du Moyen-Empire. Et là, on a un texte intéressant qui vient de la tombe de Khnoumhotep II à Beni Hassan, la 12e dynastie, où on évoque donc la promotion d'un personnage, en fait, qui est le grand-père maternel de Khnoumhotep II. Et dans le texte donc autobiographique de cette tombe, on évoque le fait que le roi Amenemhat Ier le nomma prince, donc Erpat, hein, ces traductions sont évidemment conventionnelles, Hatia, comte, et puis Kimaa, donc celui au bras gracieux, et enfin nomarque du nome de l'Oryx. Donc le titre, celui au bras gracieux, dans cette séquence, doit correspondre à une distinction particulièrement élevée pour être ainsi juxtaposé aux deux plus hauts titres de cour, donc Erpat Hatia, prince et comte, et être placé avant le titre de nomarque, hein, donc responsable de région, qui est une fonction particulièrement importante à cette époque. C'est un indice de plus de l'utilisation de ce titre Imaa dans ce contexte des titres de cour. Il renvoie à une distinction élevée, mais la conclusion des études jusqu'à présent menées, c'est que finalement il reste énormément de mystères sur le contexte d'utilisation de ce titre. Qu'est-ce qu'il signifie? À quoi renvoie-t-il? Y a-t-il une cérémonie sous-jacente à l'attribution de ce titre? On l'ignore presque totalement. Nous n'avons donc aucune idée précise de sa signification, est-ce qu'il s'agit d'une distinction occasionnelle liée à un contexte particulier, est-ce qu'il y a une connexion réelle avec la maison de vie qui a pu être établie par plusieurs occurrences. Pour l'instant, il est impossible d'aller plus loin. Alors cet exemple peut être un peu frustrant, n'est là que pour vous montrer la difficulté à laquelle sont confrontés les égyptologues en analysant ces titres et ces séquences de titres. Et dans bien des cas, il est très difficile de décoder les titulatures des membres de la cour autrement qu'en attribuant à ces titres des valeurs relatives et places dans une hiérarchie hypothétique. Alors, puisqu'on était face à la façade du tombeau de Mereruka, j'y reviens quelques instants, car s'y trouve un autre titre qui est particulièrement intéressant à la fin de la séquence qui se trouve donc sur le montant droit. Vous avez l'expression Oudj Medou En Serou, qui donne des ordres au Serou. Alors évidemment, cela m'a tout de suite interpellé, puisqu'on pense aux expressions que l'on a vues notamment lors du premier cours dans l'inscription la tombe de Rerouef, celui qui donne des instructions aux Semerou, aux courtisans, aux amis qui entourent le roi, celui qui règle l'étiquette. On sait que Serou peut avoir aussi cette acception. Alors, évidemment, dans un catalogue de titres déconnectés du contexte, on peut peut-être aller vers cette interprétation, mais ici, un indice doit nous arrêter, c'est le titre qui précède, puisque le personnage, vous le voyez ici, est quelqu'un qui tranche le jugement dans les six grandes cours, Udja Medou M Out Uret 6. Un titre lié donc à une activité judiciaire. Et puisque ce titre donc se trouve juste avant celui qui nous intéresse ici, il serait donc plutôt indiqué de traduire ici Serou par magistrat, en liant cette épithète à la fonction qu'exerce Mereruka dans les cours de justice. Alors, cet exemple, en passant, en quelque sorte, pour vous montrer, là encore, le caractère extrêmement délicat de l'analyse des séquences, avec des mots qui peuvent recouvrir des significations variées, qui ne peuvent s'apprécier que dans certains contextes, et puis aussi pour signaler que cette séquence Ujmedu en Seru n'apparaît que dans ce Mastaba de Mereruka, dans une séquence de titres, et là encore, la difficulté est de savoir s'il s'agit véritablement d'un titre, dans une titulature, ou si cela s'apparente plutôt au développement d'un titre et donc à une épithète biographique. Alors, s'agissant des titres aussi, je me dois d'évoquer ce qu'on appelle les titres cérémoniels. Donc, ce sont des titres qui sont attribués ponctuellement à l'occasion de grandes cérémonies que donc certains dignitaires vont pouvoir s'attribuer sur décision du roi pour exercer tel ou tel rôle privilégié lors d'un grand rite royal. Alors, si vous avez été lecteur de Saint-Simon, hein, vous avez des quantités d'anecdotes sur ces attributions de titres cérémoniels à telle ou telle occasion de la mort du roi ou de telle ou telle cérémonie. On discute de manière extrêmement débattue sur qui doit recevoir la fonction cérémonielle dans tel ou tel contexte. Et donc, il y avait là forcément aussi une certaine latitude à la faveur royale d'attribuer ce titre cérémoniel à un courtisan qu'il souhaitait mettre en avant. Alors, on ne peut pas parler de la cour, notamment à l'Ancien Empire, sans évoquer un épisode extrêmement célèbre. C'est l'inscription autobiographique de Ouré, ou Réour, hein, selon les auteurs, la transcription du nom peut varier, qui se trouve sur une dalle provenant de son mastaba à Giza, donc qui date du règne de Neferirkare Kakai à la 5e dynastie. Alors, le texte est particulièrement intéressant parce que là, on a l'évocation d'un incident qui se déroule lors d'une cérémonie de cour. Le roi de Haute et Basse-Égypte, Neferirkare, apparut comme roi de Basse-Égypte le jour de la saisie de la mare de proue de la barque divine. On est là dans un contexte d'un rite particulier qui fait intervenir donc le pharaon. Comme le prêtre Sem Ouré se trouvait devant les pieds de sa majesté en sa dignité de prêtre Sem et de préposé à la serviette, M sar f n sem iri hera. Donc là on a la notion de dignité sar qui renvoie à ce titre particulier qui lui est attribué dans ce contexte. Donc, le prêtre Sem, bon, cela peut être considéré comme une fonction stable, mais aussi comme un titre cérémoniel dans le contexte, est préposé à la serviette ou au mouchoir, donc celui qui va tenir ce fameux mouchoir que l'on voit dans les mains des dignitaires ou du roi dans un certain nombre de contextes. On va le revoir tout à l'heure. Et à ce moment-là, le sceptre Ames qui se trouvait dans la main de Sa Majesté heurta le pied du prêtre Sem Ouré. Sa Majesté dit à son sujet « Sois sauf », ainsi la parole de Sa Majesté. Comme Sa Majesté avait dit « Il plaît à Ma Majesté qu'il soit pleinement sauf, sans qu'on lui porte de coups, et comme il était éminent auprès de Sa Majesté plus que quiconque, Sa Majesté ordonna que cela fût mis par écrit sur sa tombe qui est dans la nécropole. » Donc là, on a, au cours d'une cérémonie, alors que Ouré a l'insigne honneur de se trouver devant le roi à ce moment-là pour porter la serviette en face du pharaon, accidentellement, le pharaon va heurter le personnage avec son sceptre. Et donc là, cela crée un véritable incident, puisqu'il peut y avoir de contact entre ce sceptre, donc, qui a un pouvoir magique, hein, qui a aussi qui incarne en quelque sorte une sorte d'activité violente possible du pharaon, et un quelconque mortel. Et donc, pour sauver en quelque sorte Ourré des conséquences de ce contact, le pharaon va prononcer donc la formule Oudja, hein, soit sauf, ce qui lui accorde en quelque sorte une immunité par rapport au coup qu'il a reçu. Alors, cet incident, qui pourrait paraître banal, est considéré par le courtisan Ourré comme suffisamment important pour qu'il en fasse état dans sa tombe. Et en fait, le fait que le pharaon l'ait aussi interpellé en lui disant « sois sauf » lui garantit une sorte de protection magique qu'il veut en quelque sorte fixer dans l'inscription de sa tombe. Et donc, il va y avoir ce cadeau royal qui va lui être fait de pouvoir inscrire le récit de cet épisode de cour dans sa tombe, et ce qui donne la naissance de cette inscription particulière. Donc, on reviendra sur la question de la proximité physique avec le pharaon un peu plus tard, parce que c'est véritablement là aussi un signe hiérarchique extrêmement important de pouvoir s'approcher aussi près du pharaon. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir le courtisan dans une position cérémonielle, en quelque sorte, jouant un rôle dans un rite particulier de manière ponctuelle. Donc, ce qui détermine aussi une forme de dynamique à l'intérieur de la hiérarchie statique des titres de cour, puisque lors de ces cérémonies, on peut avoir des choix particuliers faits par le pharaon pour mettre en exergue tel ou tel courtisan. Donc la multiplication de ces cérémonies de cour implique l'octroi plus fréquent de charges honorifiques limité au temps de la cérémonie, mais qui consacre la faveur du roi envers tel ou tel personnage, ou redéfinit ponctuellement la hiérarchie des rangs à la cour, selon une logique dépendant à la fois, dépendant cette fois, uniquement des équilibres internes à la cour. Et Norbert Elias, pour la cour de Louis XIV, avait montré l'importance de ce mécanisme, hein, de l'attribution des titres cérémoniels. On voit qu'il est perceptible à bas bruit, en quelque sorte, dans certaines autobiographies de courtisans en Égypte. Alors, après avoir évoqué ces titres, hein, leur diversité, leur fonction, leur hiérarchie, je voudrais maintenant présenter ce que l'on peut dire des représentations iconographiques de la cour à travers des sources dont nous disposons, notamment à l'Ancien Empire. Nous allons revenir pour cela à Abou Zir, que nous avions évoqué en introduction. Abou Zir, où les scènes de la chaussée du temple funéraire de Saouré fournissent précisément des représentations précieuses de la cour qui permettent de voir comment son organisation était transcrite graphiquement. Donc, vous vous souvenez de ces magnifiques reliefs donc, issus des fouilles de Tarek El Awadi donc, sur la chaussée de la pyramide de Saouré. On a une scène dans laquelle Saouré est montré en train d'entailler avec une herminette l'un des arbres à encens venant de Punt. Et nous voyons la cour répartie autour du pharaon. Alors le pharaon, vous le notez tout de suite, est représenté, c'est l'évidence, beaucoup plus grand que le reste des personnages. Alors, ce qui est assez notable aussi, c'est que cette hiérarchisation, elle va s'appliquer au reste aussi des acteurs présents sur cette représentation, qui vont avoir une représentation proportionnelle, en quelque sorte, en tout cas c'est ce qu'on peut déduire, à leur statut. Donc vous le voyez sur le schéma que j'ai réalisé, si j'attribue la taille, enfin la valeur 1 à la représentation du roi, on va avoir en dessous la mère, enfin, derrière le pharaon, en l'occurrence la mère du roi, Néfer et Tepès, à laquelle on peut attribuer approximativement la valeur 0,6. Derrière, on a l'épouse du roi, donc Meret Nepti, avec la valeur 0,5. Et vous voyez aussi qu'il y a une différence sensible de taille entre les groupes de courtisans, ceux qui se trouvent devant le roi, faisant face au roi, ont la valeur 0,4, tandis que ceux qui se trouvent derrière le roi, donc en deux registres, eux ont une valeur approximative de 0,35. Donc, on le voit, rien n'est laissé au hasard dans cette représentation. Et on a une hiérarchisation graphique des membres de la cour qui doit forcément correspondre à leur statut particulier au sein de l'entourage royal. Alors, on parlait de courtisans ayant une responsabilité particulière dans les cérémonies. Vous voyez que le personnage qui se trouve devant le pharaon, devant sa canne, donc qui porte le titre d'ami unique, qui étonnamment ici ne porte pas de désignation, enfin de nom, eh bien, il est en train de tendre la main, probablement il recueille les gouttes d'encens qui tombent de l'arbre en sang qui est en train d'entailler le pharaon, et il tient à la main une sorte de plumeau et puis le fameux mouchoir cérémoniel qu'il tient donc dans sa main gauche. Donc ce personnage, on le voit, a une fonction particulière dans la cérémonie, c'est le seul en quelque sorte qui est actif parmi les courtisans. On voit aussi peut-être le risque qu'il y a à se prendre un petit coup de bâton au passage, donc ce qui peut expliquer la mésaventure de Ourrée qu'on a évoquée tout à l'heure. Alors on retrouve ce type de hiérarchie des proportions dans une autre scène où nous allons retrouver également deux personnages qui sont représentés dans notre scène ici, donc la reine Meret Nepti et un courtisan qui se trouve ici, qui s'appelle Kemi. C'est la scène du roi assis chassant au filet. Donc là encore, j'ai attribué la valeur 1 au roi. On voit que l'épouse du roi va être représentée de manière beaucoup plus petite, avec une valeur 0,4, et le courtisan, lui, est à peu près à 0,25. On retrouve ici ce personnage Kemi, qui, cette fois-ci, lui, a eu l'honneur de porter une sorte de plumeau et puis le mouchoir, et à se tenir donc devant le pharaon. Alors on remarque en passant qu'on a aussi des représentations de divinités, de génies, de fécondité, qui apparaissent ici dans un registre particulier. Il serait, on l'avait vu, inconcevable d'avoir ces représentations dans un mastaba privé. Mais dans les scènes royales, en quelque sorte, la présence du roi permet de créer une interface entre le monde divin et le monde de la cour, et en quelque sorte, les registres peuvent s'entremêler à ce moment-là. Dans la scène représentant le roi assis sur son trône face à l'arbre à encens, l'organisation de la cour va être un peu différente. Elle se fait ici selon un ordre des registres allant du haut vers le bas. Le registre supérieur montre la mère du roi, suivie par un autre personnage féminin qui est probablement donc l'épouse royale. Puis au registre suivant, on va avoir les fils royaux sur deux registres. Puis, en dessous, on a les courtisans et on retrouve notre personnage Kémi, hein, qui a ici le titre de sémère, ami, hein, donc portant là encore les instruments cérémoniels. Alors on a un certain nombre de courtisans qui sont définis ici par leur nom. On a un directeur du palais aussi, Rerep-Ar, ici, qui est représenté. On voit en quelque sorte en action la hiérarchie de cour dans cette représentation à un instant évidemment T. Alors on notera aussi que derrière le pharaon, on a la représentation d'un groupe de personnages qui sont en train de manger et de boire. Ce sont des chefs des sculpteurs, chefs des artisans, qui étaient probablement impliqués dans l'expédition de Punt, mais peut-être aussi dans la réalisation du monument lui-même. Hein, il n'est pas rare que les artistes se fassent représenter dans les scènes qu'ils sont en train de peindre ou de graver en Égypte ancienne. Alors on peut peut-être connecter la présence de ces personnages avec la réalisation de cette œuvre qui devait être absolument impressionnante des reliefs de la chaussée de Saouré. En tout cas, ces personnages ont un insigne honneur puisqu'ils ont le droit d'être assis et de manger en présence du roi. Et c'est une distinction que l'on sait très rare dans le contexte de la cour. On a quelques inscriptions à l'Ancien Empire qui mentionnent des personnages qui ont reçu justement l'honneur de pouvoir avoir un repas offert en récompense de la part du pharaon dans la proximité du pharaon. Je pense par exemple à Washpta. On verra son inscription un peu plus tard, ou un certain Ini à Saqqara qui date du règne de Pépi II et qui nous dit qu'il avait pour habitude de s'asseoir pour manger dans le conseil d'escorte, car grand était le désir de sa majesté de me voir manger plus que tout mien semblable. Donc il insiste sur le fait que le roi apprécie sa compagnie et donc lui permet de manger en présence du roi. Alors cette organisation graphique de la cour, cette hiérarchisation des rangs de haut en bas que l'on voit sur cette scène, ne doit pas être érigée en principe général, car en fait la mise en scène des courtisans dépend en fait du positionnement par rapport à l'image du roi selon le contexte. Si l'on prend cette autre scène du complexe de Saouré, donc on est là, on est dans le temple funéraire, ce sont des scènes qui avaient été copiées par Borchardt, on voit que derrière le pharaon qui est en train de chasser les animaux du désert, on a plusieurs registres de courtisans. Il apparaît que les trois registres inférieur représente des courtisans se tenant debout droit, tandis que le registre supérieur montre des courtisans se tenant légèrement courbés. On reviendra sur ce signe de respect, de fait de courber le dos. Et au vu des titres et des statuts des personnages représentés, c'est certainement le deuxième registre qui paraît être celui qui a la priorité, donc juste celui qui est derrière le pagne du pharaon, donc qui est mis en exergue avec un des fils royaux qui deviendra ensuite le successeur, Néferir-Carré, donc qui a fait modifier son identité postérieurement et fait ajouter donc son cartouche royal pour indiquer son statut. Donc il y a eu une mise à jour en quelque sorte du relief qui est postérieur à sa réalisation. On voit aussi qu'on a ajouté une figure, un signe du ciel ici pour distinguer en quelque sorte ce statut particulier du personnage devenu en quelque sorte Netcher Nefer, hein, Dieu parfait sur Terre, et donc qui a un statut distingué des autres personnages. Donc voilà ce qu'on peut percevoir dans l'exemple précis du complexe de Saouré, de la transcription graphique de l'organisation de la cour, donc qui conforte aussi ce que l'on a vu du fonctionnement très hiérarchisé entre la famille royale, les courtisans du premier cercle et les membres actifs au sein du palais royal, mais qui laisse aussi, on le voit, la possibilité à la mise en avant de certains individus qui vont, dans certains cas très précis, se voir octroyer des fonctions cérémonielles particulières. Alors, on a évoqué l'organisation de la cour. Cela nous amène forcément à parler de la question des espaces dans lesquels séjourne la cour, donc le ou les palais se trouvant dans la capitale ou dans le lieu de déplacement de la cour. Alors, évidemment, je ne peux pas accorder trop de temps à cette question qui nous emmènerait dans des considérations archéologiques extrêmement développées. Je vous renvoie à un ouvrage collectif qui a récemment fait le point sur ce que l'on sait des palais en Égypte, hein, un colloque publié par Manfred Bitak et Sylvia Prel, donc, qui est paru en 2018 sur les palais d'Égypte ancienne et du Proche-Orient ancien. Alors, c'est un volume extrêmement riche, hein, on trouvera des mises au point récentes sur tout ce qui peut s'apparenter à un palais en Égypte et au Proche-Orient et sur les textes aussi relatifs à ces édifices palatiaux. Parmi les contributions qui vont nous permettre de faire le point rapidement sur cette question, on en a trois pour les trois époques qui nous intéressent ici, l'époque de formation, donc l'article de Gunther Dreyer, l'Ancien Empire, celui de Miroslav Werner, et pour le Moyen Empire, la très riche contribution de Stephen Quirk. Alors pour ce qui est des époques de formation, Gunther Dreyer signale qu'en dehors du site d'Hierakonpolis, aucun vestige archéologique d'une résidence royale n'est connu à ce jour. Néanmoins, donc, il est possible de dégager un certain nombre d'indices sur l'aspect des premiers palais à partir des représentations qui se trouvent sur divers objets et puis d'utiliser certaines inscriptions pour connaître un peu mieux la nature de ces palais. Alors, l'exemple le plus ancien signalé par Gunther Dreyer se trouve sur un manche de couteau fragmentaire conservé au Metropolitan Museum, qui date de l'époque Nagada 2D, et on voit ici une représentation de ce qui semble correspondre à l'aspect habituel des palais, hein, connus ultérieurement, donc avec qu'on retrouve ici également. On a une rangée de dignitaires qui portent des sceptres qui s'avancent vers un bâtiment à peu près carré, derrière lequel se trouve aussi une personne agenouillée. Il s'agit probablement d'une construction en natte de bois dont le bord supérieur est en forme de frange et dont les parois sont marquées par des hachures croisées comme des entrelacs. Alors il s'agit là très probablement de ce qu'on doit appeler un palais cérémoniel, et c'est surtout ce type de palais qui va se retrouver illustré dans les témoignages de cette époque. On en retrouve dans des documents du règne du roi A de la première dynastie qui montre l'activité cérémonielle autour de ce palais Ar. Et on le voit d'ailleurs que ici, ce palais Ar va être en relation avec un autre motif bien connu en Égypte pharaonique, le motif du serrer, c'est-à-dire la représentation d'une enceinte avec rabattue au-dessus une cour. Donc c'est la représentation d'une enceinte de palais qui va abriter le nom du pharaon qui va être inscrit dans la cour, le tout étant surmonté par le faucon Horus, donc associé à la personnalité du pharaon. Et donc, on a un lien étroit qui s'établit entre la personnalité du pharaon et ce palais Ar qui se trouve ici. Les deux fonctionnent comme des emblèmes, des symboles d'ancrage du pouvoir. Alors, on retrouve ce même type de motif aussi sur cette tablette du même roi Ar, avec des motifs beaucoup plus détaillés. En dehors de ces représentations, il est difficile d'en dire plus, hein, les vestiges d'Hyrakonpolis étant trop maigres aussi pour définir véritablement un fonctionnement du palais. Pour ce qui est de l'Ancien Empire, Miroslav Werner lui aussi est amené à constater la faiblesse des vestiges archéologiques. Même la localisation des palais à l'Ancien Empire, qu'on suppose pour certains installés à proximité des temples de la vallée des pyramides, cette localisation est sujette à caution. On peut parfois arriver à croiser plusieurs sources pour l'existence de certains palais, par exemple sous le règne de Saouré, dont on l'a vu, la documentation est assez riche. On a deux palais qui sont mentionnés dans les sources. Sur la fausse porte du médecin Niamh-Sermet, on mentionne un palais qui est dénommé Élevé et la beauté de Saouré. Non, pardon, la couronne ourérette de Saouré brille. Et puis, on a un autre palais qui est dénommé celui-ci, Élevé et la beauté de Saouré, qui est mentionné sur le relief que l'on a déjà bien vu de la chaussée de Saouré, où le pharaon expose un arbre à encens devant sa cour et va procéder aussi à une série de récompenses. Et puis, sur un document qui est cette fois-ci administratif, une étiquette de jarre provenant du complexe de Ranéféref, qui était alimentée en viande par l'abattoir du palais de Saouré. Donc, il faut supposer que les dépendances du palais de Saouré, après sa mort, continuaient à fonctionner. Et donc, cet abattoir connecté au palais, alimenté à la fois le culte funéraire de Saouré, mais aussi les complexes pyramidaux de certains de ses successeurs. Alors, en dehors de la connaissance, en quelque sorte, uniquement textuelle de ces palais, on peut quand même avoir un éclairage sur à quoi pouvait ressembler une structure palatiale en Égypte ancienne à cette époque, dès lors qu'on se décentre quelque peu, qu'on s'éloigne de la capitale Memphis, et qu'on utilise les données, notamment d'un site très éloigné du plateau Memphis, qui est le site de Balat Ain Azil, dans l'oasis de Darla, qui s'est développé donc à l'Ancien Empire. Alors, le site compte une partie urbaine et une nécropole, l'ensemble ayant été déjà repéré par Ahmed Fakhri en 1972, et puis il a été fouillé depuis 1977 jusqu'à l'heure actuelle par une équipe de l'Institut français d'archéologie orientale, et c'est l'archéologue Georges Soukassian qui s'est chargé de l'étude du site urbain, qui correspond non pas à une véritable ville, mais à l'emplacement de la résidence des gouverneurs qui, à la fin de l'Ancien Empire, donc contrôlaient, pour le compte du pouvoir central à Memphis, l'exploitation des oasis et les routes caravanières entre la vallée du Nil et le désert occidental. Alors, la fouille a mis au jour à Ain Azil une grande enceinte et au sud, les vestiges du palais des gouverneurs qui a été figé par un incendie dans un état contemporain de la fin du règne de Pépi II et qui n'a pas été ensuite réaménagé à cet emplacement, ce qui permet d'avoir un état de conservation extrêmement bon, en tout cas relativement au reste de l'Égypte. Le dommage principal subi par le palais est le percement d'un canal d'époque perse qui traverse tout le site et donc qui a endommagé un certain nombre de structures. Plusieurs gouverneurs se sont succédés dans le palais, certains dont Rentika, donc sont bien situés chronologiquement, puisqu'il est mentionné dans un décret datant de Pépi II. Alors, le palais lui-même, regardons-le rapidement, il se décompose en deux ensembles, l'appartement est et l'appartement ouest. L'appartement est va se laisser décomposer en deux parties. Par l'entrée nord, on va accéder à un hall apartique, puis aux parties privées du bâtiment, aux chambres, qui ont été retrouvées dotées encore de plots en pierre qui pouvaient soutenir donc des baldaquins. Par l'entrée sud, on accédait à une cour et à un portique permettant d'accéder ensuite à un hall de réception, ici, qui desservait ensuite différents espaces utilitaires. Alors, comme le précise Georges Soukassian, on peut avoir une claire idée de la décoration des murs, qui étaient peints d'ocre jaune et rouge, avec des plinthes vertes, marron ou blanches, et on peut aussi déduire la hauteur des plafonds, qui atteignait 4 mètres. Alors, dans l'appartement ouest, on avait une cour à portique, dont on sait qu'elle avait aussi un rôle important dans l'administration du palais, puisqu'ont été retrouvées des tablettes d'argile inscrites en hiératique, avec des listes de personnel, des listes d'attribution de grains et d'objets à des personnes et à des cultes, des comptes aussi, des ordres de mission. Et c'est l'un des atouts majeurs de ce site, c'est que le palais des gouverneurs et ses dépendances ont livré une documentation épigraphique très riche, des tablettes hiératiques, mais aussi des scellés en grand nombre, qui ont fait l'objet d'études approfondies par Laure Pantalacci. Laure Pantalacci a en effet croisé les données des tablettes ou des scellés avec les données issues des inscriptions des tombes des gouverneurs dans la nécropole toute proche de Qila el-Daba. Et l'un des apports de sa recherche, c'est de montrer le lien qui existe entre la cour royale Menfit et le palais local. Les gouverneurs de la sixième dynastie étaient formés à la résidence Menfit, comme le mentionne explicitement Renti-Kaupépi dans l'inscription de sa tombe, nous y reviendrons. Et puis, certaines personnes de rang royal sont mentionnées sporadiquement dans la documentation, notamment une fille royale qui est nommée Izutka, donc qui a fait l'objet d'un article de Laure Pantalacci dans le volume 50 ans d'éternité, jubilé de la mission de Saqqara. Il s'agit sur cette tablette d'une liste de bénéficiaires de revenus classés hiérarchiquement. Cela débute par le titre Imi Irti, chef d'expédition, et ensuite on a le nom de la fille royale, donc Izutka, qui bénéficie d'une part du revenu en question. Alors, il est difficile de connaître le statut exact de cette fille royale. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de l'épouse d'un gouverneur local? Donc, les données disponibles sont malheureusement insuffisantes pour le dire. Mais en tout cas, on peut voir dans la présence de cette fille royale à Balat l'indice d'une connexion qui existe de manière réelle entre la cour Menfit et puis cet endroit extrêmement éloigné de la capitale qu'est Balat. L'influence de la cour Menfit passe aussi par l'entremise de personnages portant le titre de Shepes Nessou, noble du roi, qui peut être porté par des hommes ou des femmes. Il s'agit d'un titre de cour d'un rang moyen qui a pu être porté dans certains cas par des nomarques, mais qui semble s'être répandu sous Pépi II jusqu'à devenir très banal. On peut en avoir une lecture presque étymologique en considérant qu'il s'agit d'un courtisan qui a reçu du roi une ou plusieurs dotations d'objets précieux. Alors, dans l'administration du palais des gouverneurs, telle que l'a décrite Laure Pantalacci, les Shepesu Nessou contrôlent des magasins qui conservent des biens de luxe destinés à l'élite, notamment à travers l'institution de la mérette, donc institution royale. Ce contrôle des biens va passer par l'application de scellés sur les magasins et par les missions d'ordre données aux intendants. Là, on voit à l'image les scellés en question et puis le dessin qui a pu en être fait en reconstituant l'ensemble de l'empreinte. On voit que le sceau du personnage reflète son statut royal avec la présence du cartouche de Pépi Ier, le serrer, qui sont associés donc à la mention des titres de Shepes Nessout et de Semer Per, noble du roi et ami de la maison, donc des titres de cour. Il est donc évident qu'il y a un lien étroit entre la cour Menfit et l'univers des palais des gouverneurs d'Aynazil, même si les particularités oasites en termes de disponibilité des matériaux ou des artisans ont forcément induit des différences. Et donc l'analyse à la fois de l'organisation architecturale du palais et de sa structure administrative est en tout cas, par la qualité et la richesse des données fournies, un passage obligé pour comprendre le fonctionnement des résidences palatiales à l'époque. C'est donc finalement via la périphérie de l'Égypte, comme souvent, qu'on peut avoir une vision la plus claire possible de ce qui se passait au centre. Alors, pour terminer ce tour d'horizon de ce qu'on sait des palais à l'époque qui nous intéresse, j'évoque la synthèse de Stephen Quirk, Palace Administration in Middle Kingdom and Second Intermediate Period Egypt, donc synthèse qui intervient après beaucoup d'autres contributions du même Stephen Quirk au sujet de l'administration palatiale. L'analyse de Stephen Quirk, ce qui est intéressant ici pour nous, c'est qu'elle s'appuie sur un arrière-plan théorique qui est celui que nous avons évoqué en introduction de ce cours, c'est-à-dire le modèle de la cour vu par Norbert Elias et aussi d'autres auteurs à la suite d'Elias, par exemple Alois Winterling ou Jérôme Dwindam. Pour l'analyse des sources, il se revendique de l'approche qu'a développée un égyptologue russe qui s'appelle Oleg Berlef, qui a produit des avancées considérables dans la lexicographie et l'histoire des institutions du Moyen-Empire. Et l'égyptologie russe a été particulièrement productive de ce point de vue, derrière le chef de file qui était Oleg Berlef. Et beaucoup de ses publications n'ont pas forcément eu l'écho qu'elle méritait du fait de l'obstacle de la langue. Quirk va les utiliser de manière extensive en suivant donc le principe posé par Berlef, qu'il s'agit d'analyser chaque terme qui apparaît dans les textes pour désigner une structure de palais en fonction de la source où il apparaît et de confronter cette occurrence avec des séries d'autres attestations. Alors, il donne par exemple un exemple, une preuve en fait de cette variété des appellations du palais ou des structures palatiales dans les textes égyptiens, en citant une stèle du Moyen-Empire conservée actuellement à Munich, qui appartenait à un certain Upwaout A, qui était grand chambellan d'Abydos sous Amenemhat II, donc la 12e dynastie, donc l'une des multiples stèles de particuliers que l'on trouve installées donc, sur la terrasse du grand dieu à Abydos, hein, dans ses chapelles commémoratives qui étaient installées donc, sur le passage de la procession d'Osiris à Abydos. Lisons le passage. Lorsque je me suis rendu au nord pour une audience à la grande résidence Khénou de Sa Majesté, les porteurs de sceaux qui sont dans le palais Pernessout et les personnes qui se trouvent à la porte, à Rérit, ont vu qu'on me faisait entrer dans le palais Pernessout sans que je sois annoncé. Un bœuf a été égorgé pour mon repas. Alors là, il y a un passage assez difficile. Les pieds se sont levés pour moi. Bon, c'est assez peu clair. Je sortis comme quelqu'un de loué dans le palais Ar, un bien-aimé du palais Setepsa. Des charges m'ont été conférées dans le palais Ar, celles de grand prêtre et de grand chambellan à Abydos. Chacun de mes rangs avait été promu par rapport à ceux de mes pères qui m'avaient précédé. Sa Majesté m'accorda le droit d'abattre des bœufs dans le temple d'Osiris Rentimentu à Abydos. Alors, vous le voyez, on a 5 désignations différentes pour le palais ou des parties du palais, Arérit, Ar, Pernessou, Chenou, Setepsa. Il est difficile de démêler en fait la valeur particulière de chacune de ces appellations. Alors, pour y voir un peu plus clair, Stephen Quirk s'est appuyé sur un document exceptionnel qui est le papyrus Boulak 18, qui est un papyrus qui date de la 13e dynastie, pardon, et qui correspond à un document comptable relatif à l'approvisionnement de la cour du pharaon en déplacement en Haute-Égypte. Donc on a en quelque sorte la comptabilité avec l'attribution des rations pour chacun des membres de la cour selon un ordre hiérarchisé. On constate donc que ces attributions de nourriture respectent en quelque sorte la hiérarchie des rangs à la cour, et c'est ce qui permet évidemment d'en déduire pour le Moyen-Empire une structure générale de l'organisation palatiale. Alors à partir de là, en utilisant les travaux de Berlef, hein, donc je vous épargne le détail de l'analyse, Quirk établit une sorte de schéma général du fonctionnement d'un palais, en code d'une structure palatiale, qui peut aussi se retrouver en dehors de tout ancrage physique dans les déplacements de la cour, hein, quand la cour est itinérante, puisque c'est le cas, en l'occurrence, de ce qui se passe pour le papyrus Boulak XIII. Alors, dans ce schéma, on voit un certain nombre de zones qui sont définies à l'intérieur du palais, qui portent l'appellation générale Pera. On a le cap, qui est une zone intérieure réservée aux femmes et aux enfants du roi et à leur personnel. Et on connaît l'expression « enfant du cap » qui désigne des enfants qui ont été envoyés au palais, qui sont devenus en quelque sorte des jeunes courtisans dans l'intimité du roi. On a Rent qui correspond à une partie antérieure, extérieure du palais, moins restreinte. Shena, une zone de stockage. Wari, une salle à colonne pour l'audience devant le roi, vraisemblablement entre le cap et la rainette. Donc ça crée en quelque sorte ici une circulation possible avec une restriction progressive des accès depuis les deux grandes portes et puis en quelque sorte un portail qui devait réguler les accès, la colonnade et une partie plus privée avec des termes dont il est difficile de séparer l'acception exacte entre Archenouti, donc probablement les appartements privés, et puis la partie qui correspond plutôt à la zone où se trouvaient donc les femmes et les enfants, donc le reste de la famille royale. Alors ça reste évidemment un schéma théorique, mais cela donne une idée de l'organisation générale de la cour ancrée dans un palais et la manière dont elle pouvait donc se situer dans l'espace quotidien. Alors on évoque avec le cap donc la zone qui accueille les femmes et les enfants du roi. Ce qui nous donne l'occasion aussi de mentionner le fait que précisément les courtisans pouvaient être formés à la cour et l'éducation des courtisans se déroulait dans un certain nombre de cas au sein même de la cour royale. Et cela, on en a des attestations dès l'Ancien Empire, avec plusieurs sources concordantes, notamment cette inscription de Shepsesta, où il nous dit qu'il est il évoque en fait les différents règnes successifs qu'il a traversés, depuis son enfance jusqu'à la pleine activité de sa carrière sous Nusserre. Il dit qu'il était un enfant au temps de Mykérinos, et c'est parmi les enfants royaux dans le palais du roi, dans les parties intérieures, dans l'appartement royal, qu'il a été élevé quelqu'un de plus éminent auprès du roi que tout enfant. Donc déjà, au sein de la classe des jeunes courtisans. C'était déjà un des plus remarquables, hein, le premier de la classe. Même chose, ensuite, il continue sa formation au temps de Chepsescaf. C'est parmi les enfants royaux dans le palais du roi, dans les parties intérieures, dans l'appartement royal, qu'il a été élevé quelqu'un de plus éminent auprès du roi que tout jeune homme. Donc on a dans cette inscription de Chepsesta l'évocation claire que la cour, que le palais royal était le lieu de formation des courtisans. On en avait déjà évoqué aussi la possibilité à propos de l'inscription de Cheti Kayap la dernière fois, hein, ce personnage d'Armim, qui était un jeune homme qui avait noué le bandeau sous la majesté de Pépi Ier, et donc qui avait probablement été en contact dès sa jeunesse avec la résidence royale. Alors, pour revenir un petit peu à Balat qu'on évoquait tout à l'heure, on a, par les textes conservés dans la nécropole de Balat, des attestations claires aussi du rôle de la cour comme lieu de formation des élites locales. Dans l'inscription de Renti Kaou Pepi, donc, qui a été publiée par Jürgen Hosing, on évoque le fait qu'il s'était distingué aux yeux du roi et que la fonction de gouverneur de l'oasis avait été octroyée alors qu'il venait de nouer le bandeau parmi les grands. Dans l'analyse de ce texte autobiographique, dont on n'avait ici qu'un extrait, du gouverneur Renti Kaou Pepi, donc gouverneur de Balat, de l'oasis, il ressort clairement, comme l'a souligné Laure Pantalacci, que comme tous les fils de dirigeants provinciaux, ce fils de gouverneur était élevé à la cour memphite selon une pratique ancienne et bien connue. Et elle souligne que le formulaire mis en œuvre dans cette composition s'apparente à celui des textes memphites ou provinciaux de la fin de la 5e ou début de la 6e dynastie, révélant en effet une formation littéraire commune à tous ces personnages. J'évoquais la semaine dernière l'ouvrage de Rolf Strutmann, hein, qui en s'appuyant sur les travaux de Norbert Elias, mais aussi de Krudener, avait essayé de créer un modèle d'analyse de la cour antique, hein, en s'intéressant plus particulièrement à la cour hellénistique. Même Rolf Strutmann définissait cinq fonctions pour la cour comme une arène politique, la cour comme un centre administratif, la cour comme un centre symbolique, la cour comme scène pour la représentation de la monarchie, évidemment avec toutes les cérémonies, la cour comme lieu de la redistribution des richesses et des honneurs. Et en fait, on peut ajouter à ces fonctions de la cour, en tout cas pour l'Égypte, le fait que c'est un lieu de formation des élites, hein, un lieu où l'éducation des hauts dirigeants est menée à bien dans un cadre centralisé. Alors c'est extrêmement important, évidemment, dans l'optique de la création du modèle culturel de l'homme de cour qui nous intéresse particulièrement dans notre démarche. Alors je signale à ce propos la publication toute récente sur ce sujet, hein, c'est vraiment sorti il y a quelques jours, d'un ouvrage d'Émilie Martinet, qui avait déjà publié un très gros ouvrage sur l'administration provinciale à l'Ancien Empire, donc un ouvrage qui s'appelle « La fabrique des élites dans l'Égypte pharaonique, essai d'histoire des élites provinciales et de leur formation au temps des pyramides », donc où elle va reprendre cette question de la manière dont ces élites locales se sont formées, avec évidemment en arrière-plan la diffusion de ce modèle de la cour centralisé à Memphis, qui est sous-jacent à ce processus de formation. Alors l'ambition que nous avons définie dans notre cours, je l'évoquais à l'instant, c'est de cerner les contours d'un type sociologique, donc celui de l'homme de cour, qui est devenu donc une référence culturelle dans la civilisation de l'Égypte ancienne. D'où notre intérêt pour la société de cour, pas forcément uniquement la cour elle-même, mais cette société qui se crée autour du pharaon. Alors, c'est évidemment une appellation qu'on peut considérer comme étant un peu vague. On peut la considérer aussi comme étant trop liée au modèle initial de la cour de Versailles, comme l'a défini Norbert Elias, pour l'amener sur le terrain des sociétés antiques. Il faut appliquer des critères qui puissent être pertinents. Alors je m'appuie là sur les travaux d'un chercheur qui s'appelle Gabriel Hermann, qui a, en partant des ouvrages de Norbert Elias, cherché à appliquer la notion de société de cour au cours hellénistique. Il s'appuie lui-même sur un ouvrage intitulé « Princes, Patronage and the Nobility, the Court at the Beginning of the Modern Age ». Pour définir la société de cour, il sélectionne trois critères pertinents. L'émergence de normes, de règles de conduite, en particulier celles régissant l'accès au souverain, et de pratiques cérémonielles qui affectent et dans une certaine mesure régulent le comportement du souverain et celui des membres individuels. Dans ce milieu social particulier se développe une culture spécifique et un mode de vie qui porte ses propres valeurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'il y a société cour, c'est qu'il y a un concept de cour, hein, c'est qu'en quelque sorte, on met à distance aussi cette idée de vie à la cour pour la formaliser. Et enfin, dans la société de cour, il y a un acteur essentiel, et c'est celui qu'on va mettre en avant, forcément nous, dans notre approche, c'est le courtisan, l'homme de cour, hein, qui va incarner, en quelque sorte, beaucoup plus que le pharaon lui-même, l'existence de ce modèle culturel. Alors on pourra revenir sur cette question, mais il est vrai que dans la société égyptienne, le pharaon ayant un statut tellement exceptionnel, divin en quelque sorte, il pouvait difficilement servir de modèle social répandu, hein, même si on va se targué de suivre l'enseignement du pharaon et parfois son modèle. C'est sûr que son caractère en quelque sorte séparé du fonctionnement social courant ne le rendait pas forcément éligible en premier lieu pour devenir un type social incarnant un modèle de comportement pour l'ensemble de la population. Et donc, en tout cas, c'est une hypothèse que l'on peut formuler. L'homme de cour, le courtisan fréquentant assidûment la cour pharaonique, devient celui par lequel, justement, cette transition du modèle culturel de la cour peut se faire à l'ensemble de la société. Cette référence culturelle, donc, de l'homme de cour, elle est exposée dans une catégorie de textes que l'on appelle communément les sagesses, les textes sapientiaux, on l'avait évoqué. Ces textes présentent de manière didactique les règles de vie dans la société pharaonique, règles qui sont explicitement conditionnées par le modèle de la cour, nous l'avons déjà mentionné, nous aurons à y revenir de manière détaillée. Mais en amont, pour caractériser le comportement de l'homme de cour, Il faut comprendre comment il se définit dans son cadre d'origine, donc celui de la cour de Pharaon, quelles sont les attitudes qui sont jugées appropriées, quel type de discours sont valorisés, quel idéal d'existence donc est mis en avant. Le fonctionnement, on l'a déjà mentionné plusieurs fois, de ce monde de la cour, il est conditionné par une mécanique qui régit strictement le positionnement, les attitudes et les mouvements de chacun des membres de cette société, roi y compris. Et cette mécanique, c'est ce qu'on appelle l'étiquette. Et je vous renvoie au passage lumineux de Norbert Elias sur l'étiquette, donc le chapitre étiquette et logique du prestige, hein, donc où il définit l'étiquette en quelque sorte comme une fin en soi pour les courtisans, manière qu'à la cour de se répartir hiérarchiquement les signes de prestige, et donc manière par laquelle la cour s'auto-représente, chacun, le roi le premier, s'y voit certifié par d'autres son prestige et sa position de force relative. Donc le comportement à la cour, la manière qu'a le courtisan de suivre strictement l'étiquette, c'est une manière, en quelque sorte, de se confirmer dans son identité, dans son statut, et ça devient en quelque sorte aussi une autre personnalité dans un contexte social particulier. Le fonctionnement de la cour, et donc c'est toute la théorie eliassienne que j'avais déjà évoquée, est de nature à induire des types de comportements sociaux spécifiques, ce que Norbert Elias a appelé la civilisation des mœurs. Alors si on entre maintenant dans la réalité de ce qui se passe à la cour pharaonique, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans la manière dont justement le comportement du courtisan va être modelé, va être caractérisé, conformé en quelque sorte selon les règles de l'étiquette. Alors, il y a un point extrêmement important, c'est ce qui concerne la proximité physique et le rapport au corps du roi. La cour est soumise à un protocole extrêmement strict, un ensemble de règles qui limite l'accès physique au roi et définit la distance entre lui-même et chaque membre de la cour. Donc la possibilité pour un courtisan d'accéder au roi, au plus près, c'est un signe de prestige particulièrement recherché. Alors cette limitation de l'accès, bon, elle est évoquée dans de nombreux textes sapientiaux, elle est évoquée aussi dans des récits comme celui de Sinoué qu'on évoquait tout à l'heure, un passage extrêmement célèbre de l'enseignement de Taotep, donc qui date de la 11e dynastie. C'est cette recommandation à quelqu'un qui se trouverait dans l'antichambre, donc dans le sas d'accès à la cour. On prescrit de se conduire selon le rang qui a été assigné au premier jour. Ne l'outrepasse pas ou ton éviction surviendra. À l'inverse, on prête un visage attentif à celui qui entre en étant annoncé. Large est la place de celui que l'on convoque. L'antichambre suit une règle précise. Toutes les attitudes sont réglées au cordeau. C'est le Dieu seul qui peut promouvoir. On n'agit pas pour ceux qui ont joué des coudes. Donc là, on a toute la logique du protocole de la cour qui est expliquée. Cette cour fonctionne donc selon une étiquette stricte qui implique que l'on ne peut pas se comporter à sa guise ou même selon les besoins normaux qui seraient imposés par une administration, mais qu'on doit absolument respecter le protocole de l'antichambre, c'est-à-dire s'asseoir ou se tenir plutôt à son rang et n'intervenir que quand le roi le décide. Alors, inversement, le courtisan de haut statut, c'est celui qui va pouvoir se targuer de prendre des libertés avec ce protocole. Il est tellement au-dessus de la mêlée qu'il peut dire, par exemple, comme c'est dans ce texte d'une tombe d'Helberger, j'étais quelqu'un qui entre à son aise sans être annoncé. Donc le fait de pouvoir circuler librement dans le palais ou à la cour sans répondre à l'obligation de suivre le protocole, ça permet à quelqu'un de se glorifier d'un statut particulièrement élevé. Cette proximité du roi, c'est ce qui est recherché absolument par tous les courtisans. Et donc ça, c'est aussi un facteur particulièrement important, c'est que le courtisan cherche une intimité complète avec le pharaon. Et donc celui qui a un statut particulièrement élevé, c'est celui qui va pouvoir rester en privé avec le roi quand les autres courtisans restent à la porte. On a par exemple une preuve de cela dans la stèle d'Antef, fils de Tchéphi, que l'on avait déjà évoqué, donc un courtisan de Montoutep II, à la 11e dynastie. Il dit « J'étais quelqu'un qui fait son rapport au roi en privé, qui est assis à ses côtés le jour du rassemblement, à qui le roi confie ses paroles pour qu'il leur serve de voie de sortie. » Et cette proximité physique, elle est parfois transcrite en des termes assez particuliers, de sorte que le courtisan devient en quelque sorte une partie du corps du pharaon, une hypostase de ce pharaon. Je vous ai donné quelques extraits de textes qui appartiennent donc au début du Moyen Empire. Sur la stèle d'Antef, fils de Mit, il nous dit « Je suis vraiment un intime de sa majesté, son serviteur unique comme son organe, mi at imef, comme un de ses membres. » Réti nous dit « Je suis son messager, la réplique de son cœur Ib, le double de son cœur Ati. » Et enfin, dans une inscription du Wadi Hammamat, « Mon maître, le roi de Haute-Basse-Égypte Neptahuire, vivant éternellement, m'envoya en mission comme un dieu envoie un de ses membres pour établir ces monuments dans le pays. » Donc la proximité physique recherchée avec le pharaon en vient à se transformer en identité, en quelque sorte physique, entre le corps du roi et la nature du courtisan lui-même qui devient en quelque sorte cherche à devenir une émanation même du roi. Et on aura des expressions ensuite qui fleuriront dans les textes biographiques du Nouvel Empire, où le courtisan se présentera comme les yeux et les oreilles du roi, façon aussi d'évoquer la même idée. Alors comment ce modèle... le comportement du courtisan dans cette société de cour. Alors, il y a eu beaucoup de recherches menées sur des choses qui nous intéressent directement ici, c'est-à-dire les comportements à la cour, mais aussi les marques extérieures de prestige, les marqueurs de statut qui ont donc été analysés pour l'Ancienne et le Moyen Empire dans des travaux récents. Donc j'avais évidemment souvent cité la thèse de Michel Beau. Vous trouverez aussi énormément d'éléments dans deux thèses récentes, celle de Christelle Mazet sur les marqueurs sociaux, représentation, identité, statut en Égypte ancienne, troisième millénaire, mi-deuxième millénaire avant notre ère, donc publié à Lyon en 2010, et la thèse d'Andrea Pilon, pouvoir et prestige des élites locales en Égypte à la première période intermédiaire, soutenue à Paris 4 en 2018. Donc ce sont des travaux qui vont recenser énormément d'éléments qui sont pertinents pour notre analyse sur la manière dont les élites se comportent à la cour et aussi expriment leur statut social distingué à travers l'adoption de tel ou tel marqueur dans leur tombe ou dans le mobilier ou dans les textes qui sont associés à leur tombe. Le point qui m'intéresse ici plus particulièrement, c'est la question de la gestuelle à la cour, la manière dont les attitudes peuvent être conditionnées par l'appartenance à la cour. Car outre la hiérarchisation des individus dans l'espace, l'étiquette va régler aussi les attitudes selon une grammaire gestuelle extrêmement codifiée. Le fait d'être debout ou assis, courbé ou prosterné, ou dans une posture d'adoration, exprime un positionnement dans l'organisation de la cour. On l'a vu tout à l'heure avec les scènes de la chaussée de Saouré. Nous allons les passer en revue de manière plus détaillée. Là encore, ce sont des éléments qui ont fait l'objet de recherches assez récentes sur lesquelles on peut s'appuyer. La thèse de Brigitte Dominicus sur les gestes et les attitudes en Égypte ancienne sert de base. Elle a été publiée en 1994 et on a une série de travaux plus récents qui sont cités sur la diapositive. La prosternation, le fait de flairer le sol, sento, est bien connue à l'Ancien Empire. On la voit représentée notamment dans les reliefs du complexe solaire de Nusserre, ici, donc devant les pieds d'un personnage qui est le roi. Ce sont surtout les textes des autobiographies de l'Ancien Empire qui nous donnent des évocations claires de la pratique de cour consistant à flairer le sol devant le pharaon. On a des inscriptions autobiographiques qui montrent qu'il était courant de flairer le sol devant le pharaon et que parfois le pharaon donne à un personnage l'honneur exceptionnel de ne pas flairer le sol devant lui, mais de flairer son pied, comme ici dans l'inscription de Washpta, où le pharaon dit au personnage « Tu ne dois pas embrasser la terre, embrasse mon pied. » On la retrouve, ce même phénomène dans l'inscription de Shepsespta, où Sa Majesté, qui est en train de louer le courtisan, lui fait flairer son pied et non pas le sol comme le signe d'un honneur extrême. Alors ces prosternations, le fait de flairer le sol devant le roi, sont surtout évoquées dans les textes et finalement dans les représentations de la cour, on voit assez peu les courtisans en train de flairer le sol. Ils sont surtout représentés en train de courber le dos ou en train d'effectuer des révérences. C'est une des attitudes donc les plus courantes à la cour, qui est exprimée par deux types de termes lexicaux, kessou, la révérence, faire la révérence, ou le verbe ham, courber, courber le dos, courber le bras. Et dans les représentations, vous l'avez vu avec les représentations de la chaussée de Nusserre, les représentations classiques des courtisans face au roi, à la cour, les montrent en train précisément de courber le dos en signe de respect ou de ramener le bras en l'inclinant pour là aussi montrer la révérence que ces courtisans présentent au roi. Alors il faut noter que ce geste de courber le dos ou courber le bras distingue à la cour la gestuelle des membres élevés en quelque sorte de l'entourage royal par rapport aux prisonniers qui sont amenés parallèlement devant le roi et qui, eux, vont être en gestuelle d'adoration devant le pharaon. Si l'on prend donc l'exemple de ces bateaux de prisonniers étrangers qui sont amenés à Saouret dans les représentations de son temple funéraire, on voit que là, qu'il ne s'agit pas de plier le bras, mais de se présenter en train d'adorer le pharaon. Et on voit d'ailleurs la légende qui est mise au-dessus du bateau, « Adoration à toi, Saouret, Dieu dont on vit de voir ta beauté ». Et donc, il y a une distinction graphique qui est faite entre le statut de courtisan qui est représenté debout en faisant la révérence et le statut des personnages étrangers qui, eux, n'appliquent pas cette gestuelle de cour réservée en quelque sorte au groupe interne de l'entourage du pharaon, mais choisissent plutôt, enfin, ou en tout cas, se voient imposer cette gestuelle de l'adoration. Alors, nous allons nous arrêter ici dans cette première analyse de la gestuelle de cour et nous verrons comment ces attitudes vont ensuite être converties selon un modèle qui en devient un modèle en quelque sorte moral dans des attitudes qui vont se diffuser dans les comportements sociaux en dehors de la cour. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.